journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bienvenue à tous. À la une ce matin, Charline vient d'en parler, des journées brûlantes et des nuits trop tièdes et moites. La canicule comme une chape de plomb cette semaine sur la France, dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et il va falloir s'y habituer parce que ces épisodes devraient se multiplier dans les années qui viennent. Une alliance LR majorité pour les municipales à Marseille. Jean-Claude Gaudin y est favorable pour sa succession. Les marcheurs, pas du tout localement, mais le parti à Paris n'a pas tranché. Emmanuel Macron y sera ce soir à Marseille. Chômage, retraite, les réformes du gouvernement. Votre invité dans 20 minutes les voit passer et il se sent écarté du jeu.
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, en colère depuis la réforme de l'assurance chômage. Il est l'invité du grand entretien de la matinale dans une vingtaine de minutes. Donc 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
À la une également, une victoire beaucoup plus éclatante qu'il y a 3 mois. Le président turc Erdogan perd la mairie d'Istanbul qui passe dans l'opposition. Les Bleus en quart de finale de la Coupe du Monde au forceps, mais elles ravissent toujours leurs supporters. Et puis leur famille habite dans le Loir-et-Cher, mais elles partiront aujourd'hui pour le Gabon. Réintroduction de 2 femelles gorilles nées en captivité. Elles vont devoir apprendre à se débrouiller.
France Inter.
Des jambes de plomb sur un bitume en fusion quand la chaleur accable. Le pire, c'est en ville. 34 à 37 degrés cette semaine à Lyon, par exemple. Et la région parisienne, placée en alerte orange. Les températures vont monter jusqu'à vendredi au moins, avec des pics à 40 degrés selon Météo France. Certaines écoles envisagent de fermer en attente d'instructions des préfectures. Les hôpitaux, eux, ne peuvent évidemment pas faire la même chose. Alors place au système D. Véronique Julia, les soignants en ont l'habitude.
Annick est infirmière dans un grand hôpital parisien. Elle affirme qu'elle est prête pour cet épisode de canicule. Celle de 2003 nous avait pris de court. Maintenant, dit-elle, on sait faire, mais avec les moyens du bord.
Évidemment, il n'y aura pas assez de ventilateurs. On ne pourra pas en mettre un par chambre. On va mettre des ventilateurs dans les couloirs. Ceux qui peuvent sortir de leur chambre, on pourra mettre des chaises ou des fauteuils dans le couloir. Mettre des draps mouillés devant le ventilateur pour faire un peu plus d'humidité. Mettre des draps glacés au congélateur.
Qu'est-ce qu'on fait avec les draps? Congelés.
On les pose sur les patients, ça les refroidit.
La climatisation, il y en a dans certains services, mais c'est loin d'être systématique, d'autant que la climatisation est techniquement compliquée à installer dans un hôpital et nécessite une maintenance coûteuse. Dans cet autre hôpital parisien, Aïcha, infirmière, elle aussi s'inquiète pour la semaine à venir. Dans le bâtiment le plus ancien de son hôpital, elle redoute que certaines chambres, dans les prochains jours, deviennent de vraies fournaises.
Dans les anciens bâtiments, on ne peut pas ouvrir les fenêtres, elles sont toutes condamnées sous décision du directeur général suite à un suicide d'un patient. Il y a aussi tout ce qui est volets roulants qui sont cassés, endommagés, voire inexistants.
Aïcha déplore aussi des fontaines à eau et des ventilateurs en nombre insuffisant. L'été dernier déjà, les personnels de cet hôpital s'étaient plaints d'un établissement sous-équipé pour la canicule, avec des chambres où la température atteignait les 35 degrés.
Alors les personnes âgées et les malades chez eux peuvent appeler le 39 75 à Paris pour être inscrits sur le fichier Chalex. Ensuite, on les appellera tous les jours pour prendre de leurs nouvelles. Pour les sans-abri, les maraudes sont renforcées. 200 places d'hébergement supplémentaires ouvertes en Île-de-France. Pour les travailleurs, le gouvernement appelle particulièrement les entreprises du bâtiment à la vigilance. Chaque salarié doit se voir fournir au moins 3 litres d'eau par jour et les tâches les plus lourdes devront être programmées aux heures les moins chaudes. D'ailleurs, tiens, peut-on refuser de travailler s'il fait trop chaud? Réponse sur franceinter.fr. Alors, ce qui fait de cette canicule un événement exceptionnel, c'est sa précocité. On est en juin, l'été vient à peine de commencer, mais c'est le sens du climat. Ces périodes-là vont se multiplier dans les années à venir, explique Thierry Baudenot, prévisionniste à Météo France, au micro d'Éric Normand de France Bleu Champagne-Ardenne.
Dans le temps, et je peux me permettre de parler comme ça, on les observait sur la première quinzaine du mois d'août. Maintenant, on commence à avoir des pics de canicule qui pointent leur nez courant du mois de mai, juin, etc. Il faut se souvenir de la petite canicule que l'on a eue en juin 2017, déjà en juin. Donc là, c'est déjà les signes du changement climatique. C'est difficile de le nier, c'est le changement climatique, pour moi maintenant c'est sans équivoque. On le voit sur la planète, on le voit en Champagne, avec la date de plus en plus précoce des vendanges, par exemple. Et au niveau des vagues de chaleur, depuis 1947, elles sont en nette augmentation. Donc les fréquences et intensités de ces vagues de chaleur devraient augmenter et surtout doubler à l'horizon 2050, c'est-à-dire demain.
L'épisode de canicule en 2003 a eu lieu effectivement au mois d'août. 15 000 personnes en étaient mortes cet été-là.
Il est 8h06, Florence à Marseille, c'est la campagne des municipales qui s'échauffe.
Oui, qui pour prendre la succession de Jean-Claude Gaudin dans la deuxième ville de France. À moins d'un an des élections, La République En Marche n'a pas désigné de candidat. Et Jean-Claude Gaudin lui-même verrait bien une alliance avec la majorité, ce qui ne convient pas du tout aux marcheurs locaux. Emmanuel Macron, attendu sur place aujourd'hui pour un sommet euro-méditerranéen, aura l'occasion, Cyril Graziani, de prendre la mesure de la bronca.
Après 4 mandats, Jean-Claude Gaudin va passer la main, mais il ne compte pas s'effacer comme ça.
Il faut un rassemblement et les marcheurs apprendront à le faire.
Surtout, les marcheurs, ils n'en veulent pas. Candidat déclaré à l'investiture au sein même d'En Marche, le député Saïda Hamada ne veut pas entendre parler d'alliance.
On ne peut pas avoir un gloubi-goulba de propositions, là, l'AREM, LR, etc. Je ne vois pas à quel titre on ferait aujourd'hui une alliance et d'ailleurs sur quelle base. Je vous le dis, moi je souhaite que La République En Marche incarne une alternative à ceux qui ont géré cette ville. Donc on ne peut pas, par définition, s'associer à ceux qui l'ont géré.
Même discours chez le seul candidat LR déclaré, Bruno Gilles, parti en campagne depuis plusieurs mois.
Je trouve que c'est un peu tôt pour parler stratégie, et surtout pour parler stratégie qui peut apparaître vis-à-vis de certains Marseillais comme des combines un peu d'arrière-boutique entre les partis.
Sauf que la visite de Brigitte Macron,
présidente de la Commission nationale d'investiture de l'RM, comme je dis en plaisantant.
Eh bien cette visite a mis le feu aux poudres. L'épouse du chef de l'État s'est affichée la semaine dernière avec Martine Vassal, la présidente de la métropole, proche de Gaudin et favorable à une alliance LR-LREM, puis avec le doyen de la fac de droit Jean-Philippe Agresti, présenté comme un des candidats possibles pour cette alliance. Évidemment, certains dans la cité phocéenne y ont vu une forme d'adoubement.
Cyril Graziani, le fisc français, le nez sur la situation personnelle de Carlos Ghosn, ce que rapporte Libération ce matin, qui parle d'un contrôle à la loupe de tous les revenus des dernières années. Dans un audit interne, Renault a soulevé un lièvre à 11 millions d'euros qui aurait pu revenir à Carlos Ghosn via une filiale néerlandaise du groupe. Voilà une entreprise en pleine mutation, la SNCF, à l'heure de l'ouverture à la concurrence pour accompagner ses agents, un atelier est mis en place à partir d'aujourd'hui, alors que ceux qui lorgnent sur les rails français se préparent et commencent à se faire connaître, Maxime Debs.
Début juin, c'est l'Italien Tello qui a donné un premier signal. Intéressé, la filiale française de Trenitalia se verrait bien demain proposer des trajets à grande vitesse entre Paris et Milan. Par ailleurs, le marché en passe d'être ouvert attire également Flixtrain, l'équivalent de Flixbus, mais pour le train.
Nous, c'est vrai que c'est dans notre ADN, on est plutôt du type culotté.
Yann Lefranc-Morin est le directeur de Flixbus en France.
On est opérateur de train en Allemagne depuis maintenant un peu plus d'un an et on a identifié 5 lignes en France pour lesquelles on pense qu'il y a énormément de potentiel.
Pour Flixtrain, pas question en revanche de se positionner sur la grande vitesse mais sur des lignes intercités, plutôt la formule. Des trajets plus longs mais moins chers, Paris-Toulouse ou encore Paris-Nice de nuit en train couchette sont susceptibles d'intéresser l'opérateur allemand. Reste à savoir dans quelles conditions.
Maintenant, il va falloir qu'on rentre dans le vif des discussions avec le gestionnaire du réseau, avec probablement le gouvernement et l'État aussi sur les conditions dans lesquelles on pourrait le faire. Et on espère en tout cas que toutes les conditions d'équité seront bien présentes sur le marché pour permettre à des nouveaux entrants de venir concurrencer la SNCF sur son cœur de métier.
Dans les faits, Flixtrain pourrait débarquer officiellement dès 2021 et promet des premiers billets à 5 euros par exemple pour un Paris-Dijon, un tarif qui n'est qu'un prix d'appel mais qui donne le ton de la bataille qui s'annonce.
Pas d'Eldorado chinois pour Carrefour. Le groupe a revendu ses 234 magasins au numéro 1 de l'électroménager chinois pour 620 millions d'euros. Son chiffre d'affaires était en chute libre.
Il est 8h10 à Istanbul, Florence. Cette fois, le résultat est incontestable et incontesté.
La ville de Recep Tayyip Erdogan passe dans l'opposition. Ekrem İmamoğlu a largement remporté l'élection hier. S'il n'avait que 13 000 voix d'avance lors du premier scrutin invalidé sur demande du président turc, le voilà élu avec 54% des voix.
C'est un nouveau départ. Sur cette nouvelle page que nous ouvrons, il y aura désormais de la justice, de l'égalité, de la fraternité, de la bienveillance. Ce sera la fin du gaspillage des paillettes, du mépris et de la stigmatisation. Aujourd'hui, 16 millions de Stambouliotes ont réaffirmé leur croyance en la justice et leur foi en la démocratie.
Voilà, ça faisait 25 ans qu'Istanbul était dirigé par l'AKP d'Erdogan. Il a dû féliciter Ekrem İmamoğlu hier soir, lui qui aimait rappeler que celui qui gagne Istanbul gagne la Turquie. Bonjour Eric Bigala.
Bonjour Florence.
Envoyé spécial de France Inter à Istanbul, Eric, ce résultat signe-t-il la fin de la gloire du tout-puissant Recep Tayyip Erdogan ?
Alors, c'est peut-être pas la fin, mais c'est clairement un déclin. C'est en fait, évidemment, la plus grosse défaite, le plus gros revers électoral qu'ait jamais connu Erdogan, même s'il n'était pas lui-même en lice dans cette municipale. D'ailleurs, autant le président turc avait été présent dans la campagne du premier scrutin en mars, multipliant les sorties publiques, autant cette fois, il est resté prudemment en retrait, probablement conscient que la dynamique était plutôt du côté de ses opposants. Erdogan le disait lui-même, le répétait au cadre de son parti il y a quelques jours. Si on perd Istanbul, on perd la Turquie. Alors, on n'en est pas encore là, mais c'est sûr qu'Erdogan sait de quoi il parle. C'est justement sur Istanbul qu'il a lui-même construit sa carrière politique. C'est là qu'il est arrivé aux premières marches du pouvoir en prenant la mairie lui-même en 1994. À l'époque, c'était une véritable surprise. Aujourd'hui, Ekrem İmamoğlu arrive à la tête d'un véritable petit pays, 5 milliards d'euros de budget, 80 000 employés fonctionnaires, ce qui lui permet de figurer comme étant l'opposant numéro 1 du pouvoir. Mais İmamoğlu a pourtant annoncé dans son discours de victoire hier qu'il était prêt à travailler avec le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan et non pas contre lui. Manifestement, il sait très bien que le président et son administration peuvent, sinon paralyser son action, au moins très sérieusement lui compliquer la tâche.
Éric Biegala en direct d'Istanbul, merci. Avec Marc Garvenès, de nouvelles sanctions contre l'Iran dès aujourd'hui. Si Donald Trump a pour l'instant renoncé aux frappes militaires, il continue à user de l'arme économique en promettant des sanctions majeures. On en connaîtra le détail dans la journée. Au Yémen, alors que des centaines de milliers de personnes dépendent de l'aide humanitaire pour se nourrir, le programme alimentaire mondial annonce la suspension de ses distributions dans les zones sous contrôle des rebelles Houthis, dont la capitale Sanaa. Le PAM invoque un risque de détournement de l'aide et n'arrive pas à la sécuriser pour l'instant. 850 000 personnes en seront affectées. Puis toujours à l'étranger, l'est de l'Indonésie a été frappé par un violent séisme de magnitude 7,3. On ne sait pas encore quelles en sont les conséquences. Il n'y a pas en tout cas de risque de tsunami.
Il est 8h13, Florence, et elles iront en quart de finale.
Les Bleus ont battu le Brésil hier 2-1, mais ce ne fut pas une partie de plaisir pour les joueuses. Un but refusé par l'arbitrage vidéo, des prolongations pour faire la différence. À l'arrivée, seule la victoire est belle, qu'importe la manière. L'équipe de France a fait vibrer les supporters du village FIFA des Halles à Paris. Reportage signé Benjamin Illy.
Tout le monde est debout.
Une hola, un clapping, et c'est parti.
Allez les Bleus !
Sur les côtés, ça va vite.
Deuxième mi-temps, 52e minute.
La France, elle a ouvert le score.
Ouais, c'est Valérie Gauvin, un honneur pour la France.
T'es footballeur?
Ouais.
À quel âge?
12 ans.
Ça fait quoi de voir tout ce monde pour l'équipe de France féminine?
Un plaisir. Parce qu'à l'époque, il n'y avait personne qui regardait le foot féminin. Et maintenant, en 2019, il y a un monde.
Et tu ressens quoi?
C'est inexplicable.
C'est quoi?
Brésil.
Égalisation.
Ouais, Brésil.
Prolongation.
Ah ouais. Il y a vraiment des forces des deux côtés, aussi bien du côté de la Seleção que du côté des Bleus. C'est un super match et allez les Bleus.
Allez les Bleus.
2-1 pour la France, le public s'est réveillé.
Allez les Bleus. Allez les Bleus.
Et voilà, elles ont gagné. Direction les quarts de finale.
Bah, le Brésil est rentré chez soi.
Elles nous ont fait rêver. Ah merci les Bleus, allez les Bleus.
Le E, c'est
le E et muet.
On va la remporter cette année.
Allez les Bleus, allez ramener la coupe à la maison.
Allez les Bleus, allez, reportage signé Benjamin Illy. Alors leur prochain adversaire, ce seront les gagnantes du soir, soit les Américaines championnes du monde, soit les Espagnols. Le match a lieu à 18h au Parc des Princes à Paris. Des gorilles françaises dans la brume gabonaise. Deux sœurs du zoo de Beauval doivent prendre l'avion tout à l'heure à Paris, des sœurs gorilles, donc direction la forêt équatoriale pour un retour à la liberté. Delphine Evenou, c'est une première pour des gorilles nées en France.
Mayumbe, 12 ans, et sa sœur Kiumba, 9 ans, n'ont pas été choisis par hasard. Un joli patrimoine génétique pour faciliter le renouvellement de l'espèce et des personnalités favorisant l'intégration. Delphine Leroux, chef animalière au zoo de Beauval.
Nous avons Kiumba, qui est une femelle qui est débrouillarde, qui n'a peur de rien, très joyeuse, qui est vraiment un moteur. Et nous avons Mayumbe, qui elle est plus calme, plus posée, plus réfléchie. Et le fait qu'elles se connaissent, qu'elles s'apprécient, fait que quand on va les emmener au Gabon, enfants, ça sera plus facile à deux.
Depuis 4 mois, elles ont progressivement changé leur régime alimentaire, branches, feuilles et écorces. Au menu aussi un traitement contre le paludisme. Mayumbe et Kiyomba vont d'abord vivre sur une petite île de 3 hectares pour être protégées tout en devenant autonomes. Puis, d'ici un an, des ponts leur permettront de rejoindre la communauté de gorilles. Un bouleversement pour les deux sœurs habituées à voir des humains tous les jours et qui vont quitter leurs soignants. Mais les adieux se feront avec le sourire, assure Rodolphe Delors, le directeur du zoo de Beauval.
Pour nous, ce n'est pas un moment triste, c'est un moment d'espoir pour la conservation. L'avantage de réintroduire une espèce aussi emblématique que les gorilles, c'est que ça nous permet de protéger toute la zone, aussi bien la faune et la flore de cette région.
Et pour l'équipe du zoo, la meilleure nouvelle serait que des bébés gorilles naissent de cette réintroduction.
Delphine Evenou, enfin imaginez Nicolas, vous prenez l'avion, vous faites un petit somme et puis finalement votre sommeil s'avère plus lourd que cette simple petite sieste. Et vous vous réveillez tout seul dans un avion au sol, complètement plongé dans le noir, ce qui est arrivé à une femme qui avait pris un Québec-Toronto. Donc elle s'est réveillée, elle s'est aperçue que l'appareil avait probablement été remorqué à l'extérieur de l'aéroport de Toronto. Son portable, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de batterie, elle veut le recharger, mais donc il n'y a plus d'électricité, donc impossible de recharger nulle part. Elle finit par fouiller tout en essayant de contenir sa crise d'angoisse dans le cockpit. Elle parvient à trouver une lampe torche, elle arrive à ouvrir la porte de l'avion, mais là, il y a 15 mètres entre la porte de l'avion et le sol, impossible de descendre. Elle ne doit son salut, cette jeune femme, qu'à un conducteur de chariot de bagages à qui elle a fait des signaux lumineux avec sa lampe torche et qui est venue la chercher. La compagnie Air Canada a présenté ses excuses.
On la comprend. Merci beaucoup, Florence Paracuelos.